Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le courant soufi de l'islam prend aujourd'hui des voies nouvelles dans la pratique musulmane. Femme théologienne, imam et mène shéha de confrérie. Même si elle est méconnue, la précédence spirituelle du principe féminin n'est pas une nouveauté, elle est même présente dès la naissance de la religion. C'est ce que nous montre l'islamologue Éric Geoffroy dans son dernier livre « Allah au féminin » publié chez Albin Michel. Ce qui n'empêche pas une réelle dichotomie de nos jours dans le monde musulman entre l'éternel féminin sublimé et la femme biologique dévalorisée. Ce que les maîtres soufis modernes tentent d'atténuer. À suivre la revue de presse, nous feuilletons les journaux d'Israël et du monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Éric Geoffroy.
Bonjour Éric Bataillon.
Spécialiste du soufisme, vous enseignez l'islamologie à l'université de Strasbourg et vous présidez l'association Conscience Soufie que vous avez cofondée en 2016. Vous publiez chez Albin Michel « Allah au féminin ». Alors votre livre, Éric Geoffroy, est construit en trois parties. La première est consacrée au féminin originel. Qu'est-ce que c'est pour vous que ce féminin originel ?
Alors, mon point de départ premier, c'est l'androgynie. C'est-à-dire que l'âme, avant d'être incarnée en homme ou en femme, est donc unique. Et on parle de cet Adam primordial qui n'est pas encore sexué. Et après, donc, il y a cette diffraction et il y a cette séparation sexué en homme et en femme, mais Ibn Arabi, par exemple, donc je rappelle un grand maître qui est mort en 1240, un des auteurs principaux du soufisme, il nous rappelle que cette séparation sexuée, elle n'est qu'adventice, elle est contingente. Donc, qu'est-ce que ça implique dans notre état de dualité actuelle, en tant qu'êtres humains incarnés, homme ou femme, c'est que l'homme doit retrouver en lui sa partie féminine, et là je parle sur un plan métaphysique, et la femme doit retrouver en elle sa partie masculine. Or, schématiquement, ces maîtres nous montrent que la femme a plus de facilité à retrouver cette complétude en elle que l'homme, bon, schématiquement.
Mais alors, l'allégorie de la création d'Adam et Ève, à laquelle vous faites allusion, elle dit a priori que c'est Adam qui a été conçu le premier, mais est-ce que ça pourrait être Ève ?
C'est l'Adam primordial, encore une fois, c'est-à-dire encore non sexué. Et là, bon, je cite un passage coranique, j'analyse verset bon, par verset, la sourate 20. Donc, précisément, au moment de la désobéissance d'Adam, qui n'est pas perçu comme un péché dans le Coran, d'ailleurs, en autre passage, c'est Adam qui est en cause et non Ève. Ève n'est jamais citée dans ce contexte de faute, faute qui va entraîner la chute sur terre. Et donc le Coran est très, au niveau grammatical, est très clair, au niveau linguistique. Il s'adresse d'abord à l'Adam primordial, toi, et puis ça se diffracte en vous deux. Donc, parce qu'en arabe, il y a le duel, en grammaire arabe. Mais c'est après, et donc, et Ève n'est pas nommée. Donc Ève, en tous les cas, n'est jamais fautive, bon, par rapport à une certaine tradition judéo-chrétienne. Et puis, ce contexte coranique se termine par le pluriel, c'est-à-dire, maintenant, descendez sur terre, ennemis les uns des autres. C'est terrible, c'est-à-dire, il y a cette dualité, il y a cette tension que nous vivons depuis que l'humain est là, sur terre, voilà. Mais donc, encore une fois, la sexuation n'est que secondaire. Ce qui fait que pour les maîtres spirituels, la femme, ils le disent, la femme a accès au même degré spirituel que l'homme. Là-dessus, ils sont vraiment très clairs.
Alors, pour dérouler votre propos, vous vous appuyez sur l'œuvre d'Ibn Arabi, qui était, donc, vous l'avez dit, théologien, juriste, poète, métaphysicien, grand maître de la spiritualité, de l'ésotérisme en islam. Pourquoi ?
Parce que dans ses écrits, il tient des propos, on est vers 1200, d'une ouverture au féminin qui est extraordinaire. Au point que certains disent que même les féministes occidentales contemporaines ne sont pas arrivées parce qu'il met le féminin en primordialité, en précédence par rapport au principe masculin.
Oui, il dit notamment « un lieu qui n'est pas empreint de féminité n'est pas fiable ».
Oui, ben oui, voilà.
Il était donc féministe.
Oui, ah ben bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il a écrit vers 1200, on le dit avec les spécialistes qui étudient son œuvre, eh bien, c'est pour maintenant, c'est pour le futur. C'est-à-dire que ses contemporains n'ont pas compris ce qu'il écrivait, parce qu'il va très loin. Et il faut comme noter qu'il a eu un disciple à travers le temps, parce que ces gens-là sont reliés, parce que maintenant qu'on sait que le temps n'existe pas, précisément, avec l'émir Abdelkader, donc celui qu'on connaît du 19e siècle, mort en 1183, l'émir Abdelkader reprend l'enseignement d'Ibn Arabi aussi, ils vont très loin. Ils nous disent que Bon, je schématise. Par exemple, ils nous disent que l'essence divine ne gère pas le monde, mais ce sont les non-divins qui sont plus proches du monde créaturel qui gèrent le monde. Or, s'il n'y avait pas le principe réceptif féminin, principe un peu terrestre, si vous voulez, eh bien, ces non-divins seraient sans effet parce qu'ils n'auraient pas pu, en quelque sorte, s'incarner sur Terre. Donc, du coup, le principe féminin est primordial dans cette invitation du divin sur Terre. Enfin, sur Terre au sens large, quoi.
Vous écrivez que la condition des femmes dans le monde musulman a subi donc une dégradation progressive. À quoi est-elle due, cette dégradation, et comment cela s'est-il traduit au fil du temps ?
Eh bien, on voit à peu près jusqu'au XVe siècle, on voit que les femmes enseignent aux hommes, parfois dans des mosquées, elles portent parfois le turban, parce que les hommes à l'époque portaient le turban, elles sont parfois enturbanées. Et elles ont accès aux sciences, elles enseignent, je pense, à des grands savants que connaissent encore maintenant certains musulmans, parce que ce sont encore des références, moi des savants du 14-15e siècle, Mamelouk, on est par exemple dans l'Égypte Mamelouk, Suyuti, Ben Hajar, etc. Ces gens-là ne répugnent jamais à rappeler qu'ils ont pris telle ou telle science de femmes. Et ce n'est pas une ou deux en passant. Ibn Hajar parle de 50 femmes. Vous voyez, donc toutes ces choses-là ont été estompées, ont été complètement donc oubliées. Et il y a un travail qui est fait, bon, je pense à un universitaire maintenant à la retraite en Angleterre, qui a exhumé plusieurs milliers de femmes savantes de l'histoire de l'islam, savantes en sciences donc de la parole du prophète, exégèse du Coran, même en droit musulman, en soufisme. Donc ça revient. Donc c'est quelque chose qui ressort. Je pense que nous vivons une période de révélation, avec un petit R, mais avec un S, où tout sort, le meilleur et le pire, d'ailleurs, on le voit actuellement. Du coup, je pense que, en effet, le principe féminin, je ne suis pas seul à le penser, doit venir rééquilibrer ce déséquilibre provoqué par un principe masculin outrancier, dévoyé, qui pour moi se situe en gros avec la modernité de type européen à partir du XVIIe siècle, XVIIIe, révolution industrielle, technoscientisme, hégémonisme européen, colonialisme, etc. etc.
Vous consacrez un sous-chapitre à la culture iranienne ainsi qu'à l'un de, vous l'avez dit, de ses grands poètes, Rumi. Les femmes y sont-elles mieux traitées ?
Globalement, non. Bon, je passe en revue donc les principaux. Bon, il y a aussi Attar, bon, connu bon, par certains, hein, qui est un grand poète, qui est un soufi donc, du XIIe siècle. En Iran, on trouve assez souvent, de fait, cette tension que ces hommes n'ont pas toujours apparemment résolue. Attar l'a fait. Rumi, c'est pas évident. D'autres chercheurs l'avaient remarqué avant moi, mais là, j'étais plus dans le détail. Ils n'ont pas su résoudre, enfin, ils n'ont pas pu résoudre cette tension, alors qu'on voit que les Andalous à l'époque musulmane, hein, donc 12e, 13e siècle, Ilyam Narabi, il y en a d'autres. Il y a aussi un grand savant qui n'est pas soufi, peu connu, mais qui est Ibn Hazm, qui est mort vers 1060, et qui, lui, va aussi très loin dans l'amour du féminin et dans l'identification entre le féminin et le divin. Voyez, donc là, il semble bien que l'Andalousie, bon, et c'est le mythe andalou hein, qu'on a, mais par rapport à ce respect, même à la vénération du féminin, voire de la femme, donc l'Andalousie musulmane a été très loin.
Est-ce que le soufisme est particulièrement bienveillant ? L'a-t-il toujours été bienveillant envers les femmes ?
Ben, alors non, justement, la question qui s'est posée se pose. Est-ce que le soufisme serait la panacée pour que le vécu musulman réintègre la femme à sa juste place ? Et ça, c'est quelque chose qui est en fait en process, qui est en cours. Non, ben bon, alors dans l'histoire, on le voit, bon, je le dis, j'ai tout un chapitre où je vois qu'à part des exceptions, beaucoup même de grands maîtres tombent dans ces poncifs culturels. Et alors actuellement, où il y a de plus en plus de femmes shaira, donc des femmes maîtres guides spirituels, hein, c'est quand même un phénomène important. Alors c'est pas nouveau, mais ça sort de plus en plus. Hein, c'est quelque chose qui en fait apparaît de plus en plus. Et là, je pense que dans les milieux soufis vont devoir, en tous les cas, accepter ça de plus en plus.
Justement, Éric Geoffroy, vous le suggérez dans la troisième partie du livre, il y aurait une résurgence du féminin dans la spiritualité islamique aujourd'hui, oui. De nos jours. Comment ça se traduit ? C'est des imams, femmes, ce sont des sheikhas, etc.
Oui, oui.
Des théologiennes qui émergent ?
Tout à fait. Alors, moi, dans mon livre, j'essaye de ne citer que de traiter que des femmes ayant un lien avec le soufisme. Donc, je cite deux théologiennes, une Libanaise, puis une Syrienne qui vit au Canada et qui ont des liens avec le soufisme. Et je cite des femmes imams qui ont un lien avec le soufisme. Hein. Être imam, ça peut s'acquérir, je veux dire, par une formation en sciences islamiques, etc. Tandis que être maître spirituel, c'est un don, c'est lorsque le maître, homme ou femme précédent, vous a reconnu comme ayant ce don spirituel, cette grâce spirituelle, et donc il vous a investi, il ou elle vous a donc investi, et donc et c'est une responsabilité grande, hein, parce que vous avez maintenant, vous avez donc des chiaras qui ont des milliers de disciples, hommes et femmes. Vous voyez, dans ce livre, j'ai eu des entretiens avec 5 femmes maîtres spirituelles, et je connaissais plus ou moins, mais assez bien, la plupart des 5. Et c'est intéressant parce que parmi les questions que j'aurais posées, justement, c'est est-ce que le fait d'être une femme change quelque chose, à votre avis, dans votre fonction donc de guide spirituel? Et toutes ont dit oui. Et elle mettait en relief notamment alors, l'aspect d'humilité, d'inclusivité, mais l'aspect maternel, parce qu'elles sont toutes mères ou grand-mères.
Et vous dites qu'elles sont plus tournées vers la spiritualité. Est-ce à dire que par rapport à leurs collègues hommes, elles sont moins politiques ?
Oui, alors moi, la situation se pose notamment en Turquie, parce que c'est un peu délicat. Une d'entre elles, elle en parle très peu, mais je sais qu'elle a des positions, mais globalement, elles évitent, de même que les soufis en général essayent d'éviter des prises de position politiques. Alors, on a eu comme le cas de l'Algérie, après les années noires, après les années 90, où du chef de l'État, donc à l'époque, donc Bouteflika, jusqu'à tous les ministères, ont poussé vers le soufisme, c'est-à-dire comme antidote contre l'islamisme, contre le terrorisme, etc. Maintenant, ça s'est un peu amoindri, mais l'Algérie, durant 20 ans, a vraiment poussé donc vers le soufisme. Elles ont un rôle social aussi, ces femmes. Elles ont un rôle social, moins directement politique, mais vraiment social. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ne sont pas dans une bulle comme ça, un peu, qui protégerait les hommes. Non, une de ces guides spirituels turcs a créé des centres d'études soufis académiques dans différentes universités, à Istanbul, mais aussi en Chine, au Japon, aux États-Unis. Vous voyez, donc elles sont dehors. Comme on dit maintenant, elles ont une surface sociale, médiatique, plus ou moins suivant le cas, quoi.
Donc l'islam politique, ce n'est pas pour elles.
Après, ce n'est pas ce qu'on appelle l'islam politique, hein. Voilà, mais celles que je connais, elles sont dans l'urgence de l'éveil des consciences. Vous voyez. Mais après l'éveil des consciences, et là je pense à des chers hommes, hein, et donc contemporains, ça a et ça va avoir aussi des résonances politiques, mais politiques au sens large, quoi, bien sûr.
Merci Éric Geoffroy.
Merci à vous, Éric Bataillon.
Président de l'association Conscience Soufie. À lire votre dernier livre, Allah au féminin, le féminin et la femme dans la tradition soufie, publié chez Albin Michel. La revue de presse croisée Israël Monde Arabe, on retrouve Alexandre Boutchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la crise du coronavirus fait toujours la une des journaux arabes.
Oui, et dans la plupart des pays, il y a une relative amélioration. Alors le nombre de cas, 452 000 ce vendredi, n'a augmenté que de 13%, tandis que le nombre de morts est passé à 6200, soit 18% d'augmentation, moitié moins que la semaine dernière, tant pour les nouveaux cas que pour les décès. L'Égypte, par contre, continue à avoir un nombre important de nouveaux cas, plus 25% en une semaine, ainsi que de morts, plus 40% en une semaine. Cette amélioration encourage la plupart des pays à poursuivre l'assouplissement des règles sanitaires. De nombreux pays envisagent la reprise des vols réguliers à partir du 1er juillet. Toutefois, le masque reste obligatoire dans tous les moyens de transport collectif. En Égypte, pour venir en aide aux plus défavorisés, 40 millions de masques en tissu lavable vont être distribués avec les denrées de première nécessité subventionnées. Parallèlement, universités et armées montent des hôpitaux de campagne pour parer au manque de lits.
Et en Israël, Michel Paul, le déconfinement se passe plutôt mal.
La deuxième vague est déjà là, les chiffres semblent le confirmer, mais certains experts expliquent que c'est tout simplement le résultat du nombre plus important de tests qui sont réalisés. En tout cas, la presse le souligne, plus question de nouveau confinement général, mais cette fois des mini-confinements dans les zones problématiques. Les journaux parlent du fiasco du retour à la scolarité et des grandes vacances. Personne n'y comprend plus rien, proclament des commentateurs. Les parents y perdent leur latin, ou plutôt, en l'occurrence, leur hébreu. Quelle mauvaise leçon pour les élèves, estiment plusieurs éditorialistes. Et puis, selon Maariv, des ultra-orthodoxes new-yorkais, parfois symptomatiques, arrivent tout droit en Israël, en avion, pour y recevoir des soins gratuits. Le ministère israélien de la Santé ne confirme pas.
Michel, imposer la souveraineté israélienne sur une partie de la Cisjordanie, c'est le sujet principal de vos journaux, mais on en sait finalement peu de choses.
On parle beaucoup de cette annexion, Eric, mais un autre sujet revient également en force, de nouvelles élections en Israël, les quatrièmes du nom. Et ce scénario, qualifié de catastrophe par nombre de commentateurs, serait dû d'une part au projet du Premier ministre israélien, mais aussi à la loi budgétaire. Les partis qui forment la coalition n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce sujet. Cela pourrait provoquer la dissolution automatique de la Knesset, le Parlement israélien. Ce qui nous affirme à Haaretz, le journal libéral, ne serait pas pour déplaire à Benjamin Netanyahou, qui, selon le quotidien, voit du même regard la chute du parti bleu-blanc dans les sondages et les dysfonctionnements de l'accord qui unit sa coalition plus que bancale. Quoi qu'il en soit, pour Israël Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, les États-Unis n'apporteront leur soutien à l'idée d'annexion que s'il s'agit d'une initiative commune Netanyahou-Gantz. Maariv affirme que Benny Gantz, précisément, votera en faveur de l'annexion seulement en échange d'un budget portant sur 2 ans. Sous ce titre intéressant figure immédiatement le démenti de l'entourage de Gantz, mais en fait, Eric, on ne sait pas vraiment de quoi il retourne. Selon Haaretz, Netanyahou a présenté à Benny Gantz divers scénarios possibles pour cette annexion. Quant à Yediot Aharonot, il choisit ce week-end d'omettre tout simplement ce sujet de sa une. Et cela en dit long.
Alexandre, de nombreux articles et commentaires estiment que le monde arabe est attaqué de toutes parts. Expliquez-nous.
Oui, la plupart des articles, en fait, désignent la Turquie au premier rang des attaquants. Une Turquie dont l'armée, selon les journaux, occupe une partie de la Syrie et maintenant de l'Irak, sans oublier les conseillers militaires, les armes et munitions et les djihadistes transférés en Libye. L'Iran arrive en deuxième position avec la présence de ses milices en Syrie, Iran, Liban et Yémen. Israël, qui occupait la tête du classement depuis sa création en 1948, n'arrive qu'en troisième place avec son projet d'annexion de territoire en Cisjordanie. Les éditorialistes pointent un autre genre d'attaque, celle des barrages. Après la Turquie, qui avec le barrage Atatürk a privé la Syrie et l'Irak d'une bonne partie de leur eau, voici l'Éthiopie qui avec son barrage de la Renaissance menace le Nil, irriguant le Soudan et surtout l'Égypte.
Alexandre, en Égypte, on réclame le déboulonnage d'une statue d'un archéologue français qui disait pourtant « Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi », c'est Champollion.
Oui, et il s'agit de la statue de Bartholdi, vieille de près d'un siècle et demi. Une statue de marbre montrant Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, posant le pied sur la tête d'un pharaon et qui est exposée dans la cour du Collège de France. Une insulte à l'Égypte, estiment de nombreux archéologues, mais aussi d'internautes du pays des pharaons. Une demande vieille d'une dizaine d'années, mais qui a ressurgi dans le cadre de la vague de contestation des symboles de l'esclavage et du colonialisme qui a suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Un internaute propose une contre-statue, celle du roi Louis IX de France, à genoux, un boulet enchaîné aux pieds. Louis IX, devenu Saint-Louis, avait été capturé en Égypte lors de la 7e croisade au 13e siècle.
Et votre image de la semaine, Michel ?
Eh bien, c'est le retour des activités culturelles en Israël avec de nombreuses photos des acteurs, des chanteurs et des musiciens qui arborent un large sourire derrière leurs masques après une longue période de chômage forcé.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde de Mathias Gulchani. Abonnez-vous au podcast de l'émission et n'hésitez pas à nous noter. On se retrouve samedi prochain à la même heure. Prenez soin de vous.
Religion du monde.